La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série consacrée à Arthur Rimbaud à l'occasion du Printemps des Poètes qui se tient jusqu'au 23 mars prochain sur le thème du courage un peu partout en France. Une série débutée lundi par Jean-Baptiste Baronian qui est revenu sur la vie de ce génie précoce, élève modèle et habitué des prix d'excellence, qui a choisi le départ et la liberté plutôt que la vie bourgeoise, il paiera au prix fort son exigence radicale. Et puis hier, c'est de quelques échappées rimbaldiennes que nous avons parlé avec André Guyot, le maître d'œuvre de la dernière Pléiade Rimbaud. Tandis que demain, nous nous arrêterons sur la politique au creux de ses poèmes. Ce sera avec le politiste Frédéric Thomas. Et aujourd'hui, pour parler d'une saison en enfer, nous sommes avec Yann Frémy, maître de conférences en littérature française à l'Université de Strasbourg. Il co-dirige actuellement avec Alain Vaillant et Adrien Cavallaro un dictionnaire Rimbaud, proposant 400 entrées à paraître chez Classique Garnier. Après avoir œuvré avec Henri Skepi et Solène Dupas sur le volume des œuvres complètes Rimbaud-Verlaine en quarto chez Gallimard, il a enfin publié tout un essai sur Une saison en enfer, intitulé « Te voilà, c'est ta force » en 2009 aux éditions Classique Garnier. Bienvenue à tous dans cette compagnie qui commence avec l'ouverture d'Une saison en enfer dans la voix de Guillaume Gallienne.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui, ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire un dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, etc. » se réécrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. « Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. »
Et bonjour Yann Frémy.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. On avait envie de parler aujourd'hui d'une saison en enfer parce que c'est un texte, un recueil de textes, tout de même assez à part. C'est le seul livre que Rimbaud s'était employé de son vivant à faire connaître. Pour quelle raison ?
En mai 1873, Rimbaud adresse une lettre à Ernest de La Haye, son ami, et il écrit « Mon sort dépend de ce livre ». La lettre dans laquelle il s'exprime est assez enjouée, mais on sent quand même qu'il est à un tournant de son existence. Le milieu éditorial et la quête de la célébrité sont certaines chez lui, mais il a en même temps un sentiment d'attraction et de répulsion en même temps vis-à-vis du milieu littéraire. Mais il vient d'avoir 19 ans.
Il a juste 19 ans et on a l'impression qu'il a derrière lui déjà une vie de littérateur très très longue.
Voilà. Mais en même temps, il a fait fort impression à Paris quand il est arrivé en septembre 1871. Mais il est parti avec Verlaine, où il a enlevé Verlaine pour partir vers Bruxelles et Londres. Et sa réputation littéraire, ainsi que celle de Verlaine, sont assez catastrophiques. Verlaine, lui, avait une très bonne réputation littéraire, avait fait un bon mariage, une bonne santé financière. Il avait une réputation d'auteur hein, qui commençait véritablement à prendre. Mais même lui a du mal à publier. Donc, ils vont essayer absolument de publier, mais il est hors de question de publier dans les grandes librairies parisiennes.
Donc, quand il dit « mon sort dépend de ce livre », c'est vraiment son sort en tant que poète. C'est pas une vision plus, je ne sais pas moi, en rapport avec son être profond. C'est, il s'agit de sa carrière, en fait.
Je pense qu'il y a une dimension existentielle, ontologique, qui est là, mais quand on regarde bien le ton de la lettre, il est assez joyeux, assez parodique, on sent quand même l'écrivain à l'œuvre. Bon, il va parler de choses véritablement qui comptent pour lui, mais pour l'instant, le livre est très limité. C'est juste ce qu'il appelle un livre païen ou nègre.
Donc, on peut s'arrêter d'ailleurs sur ce terme, ces deux termes d'ailleurs, païen ou nègre, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier?
Bon. Clairement, au départ, il n'a écrit que 3 histoires et il en envisage 9, hein, ce qui correspond à une saison en enfer, mais il est plutôt, disons, dans la logique de la sensation avec une volonté de retrouver des sensations que le monde chrétien a dérobées. Hein. Il le dit un moment dans les premières communions, « Christ, ô Christ, éternel voleur des énergies ». Donc il essaye de faire une œuvre d'énergie, mais je pense qu'après le drame de Bruxelles, on va avoir affaire à un véritable récit de crise qui va être doté d'une profondeur existentielle, justement cette fois beaucoup plus profonde, et qui va donner encore plus de sens à la phrase « Mon sort dépend de son livre ». Là, on est vraiment dans la question, pas simplement d'un destin littéraire, mais d'un destin individuel.
Alors, il va aussi y condenser ses expériences de vie et ses expériences poétiques. Il cherche à rassembler tout ce qu'il a essayé de mettre en œuvre en poésie durant les années précédentes.
C'est un retour sur le passé. C'est pas forcément une condamnation du passé, c'est plus complexe que ça. D'autant plus que on peut pas rapporter tous les jeux d'une saison en enfer à Rimbaud. Verlaine disait d'une saison en enfer, c'est une espèce d'autobiographie psychologique. Donc il reconnaît cette dimension autobiographique, mais en même temps il insiste sur le côté psychologique, donc potentiellement déformant, et espèce 2, hein, disant que peut-être qu'il y a une part de fiction.
Peut-être pour se protéger aussi.
Oui, c'est-à-dire que il s'est très bien reconnu, mais il explique aussi que son personnage, enfin sa personne, a été interprétée à travers un miroir déformant et polémique, notamment dans ce passage, enfin ce chapitre merveilleux qui est Délire 1, Vierge folle, qui est assimilé à Verlaine, et l'époux infernal, qui est assimilé à Rimbaud.
Alors quand vous dites que c'est plus compliqué, en quoi? Comment est-ce qu'il faut lire alors cette section?
On peut le lire simplement comme déjà, comment dire, c'est une parabole. C'est une parabole, c'est la parabole des 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles ont prévu de l'huile dans leurs lampes et les vierges sages ont oublié de les remplir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait œuvre de provision humaine. Quand l'époux, le divin époux arrive, c'est-à-dire le Christ, les vierges folles n'ont pas de... Non, pas cette huile. Et donc, ils vont être précipités en enfer, ils vont être damnés. En fait, ce que Rimbaud propose, c'est une sorte de gros plan sur une des 10 vierges folles, et il écoute sa confession, ses plaintes. Mais au lieu de l'appeler compagne d'enfer, il appelle la vierge folle compagnon d'enfer. Et à la fin, l'époux infernal, lui, connaît une absomption. Il devient en quelque sorte une sorte de Vierge Marie. Donc, si on regarde bien, la vierge folle a des traits masculins, souvent, l'époux infernal a beaucoup de traits féminins. Donc ça brouille l'identité sexuelle. Ouais. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand Rimbaud est arrivé en 1871 à Paris, il y a eu beaucoup de ragots. On a vu Verlaine avec Mademoiselle Rimbaud. Voilà. Et après, un rapport de police dit que Rimbaud est l'ami, de Verlaine. Donc, qui était à l'époque 1871 grand, svelte, imberbe, aux cheveux longs? Eh bien, c'est Rimbaud. Et Rimbaud va très saillamment inverser cette tendance hein, qui consistait à faire de lui finalement une femme et la compagne de Verlaine.
Donc il y a un ton volontairement polémique.
Polémique et parodique, et, en plus, et ça va très très bien réussir, parce qu'on va dire, je l'entends encore beaucoup aujourd'hui, Verlaine c'est quelqu'un de féminin, mais vous avez vu Verlaine, avec son chapeau, son feutre, sa grande barbe, on dit par ailleurs que c'est un faune, et après on lui prête des caractéristiques féminines, ce qui est, bon, évidemment, je parle des caractéristiques féminines selon les critères de l'époque, hein, dans le contexte polémique de l'époque, mais tous ceux qui ont fréquenté Verlaine au moment où le rencontre Rimbaud dit que Verlaine est un mâle. Ouais. Voilà. Et Delahaye dira, mais Verlaine était absolument contraire à ce personnage féminin. Quand on le connaissait, il était grand, il était barbu, il faisait peur aux gens, et on lui a donné une réputation, peut-être à cause de sa poésie, de délicatesse, alors qu'on sait aussi que sa poésie, c'est une poésie aussi tout en force, hein, par moment.
Et Verlaine n'a pas souhaité répondre à Rimbaud dans ses poèmes, en se positionnant de manière soit féminine, soit masculine par rapport à Rimbaud?
Il y a une lettre où il dit que Rimbaud l'a, mais il parle des illuminations, que Rimbaud l'a peint en satanique docteur, hein, c'est dans Vagabond, mais il dit ça c'est pas vrai. Et après il va quand même répondre par une série de poèmes concernant Rimbaud, où il va s'en prendre à cet enfant de colère. Mais pas, il ne répondra pas directement à Délire 1, alors qu'il sait très bien que c'est, qu'il a été représenté de manière polémique.
Sur France Culture, nous parlons d'une saison en enfer avec vous, Yann Frémy. Vous nous racontez d'ailleurs des histoires, et c'est pas pour rien, c'est parce que une saison en enfer, c'est une histoire qui se déroule sur ces 9 sections. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation du roman chez Rimbaud avec ce recueil?
Au départ, il pensait écrire des histoires, des petites histoires en prose, dit-il. Et après, on aura plutôt une œuvre où il y a une dimension narrative, comme dans l'Alchimie du verre, mais une œuvre qui va être fortement oralisée, faite à base de discours et de commentaires. Néanmoins, on a un cadre qu'on pourrait appeler paranarratif qui est là, c'est-à-dire qu'on a un début et on a une fin.
Et ça raconte quoi, cette histoire?
Vous parliez de courage tout à l'heure, ben, il en a fallu pour Rimbaud. C'est-à-dire que dans la première phrase, c'est la parabole du festin. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin. Rimbaud a la passion de la liberté. Et on voit bien que ce festin, on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il existait, c'est une image du paradis, mais c'est ma vie était un festin, c'est-à-dire ma vie, hein, ce que je suis, ou ce que je ne suis pas encore, est prise dans une sorte de totalité aliénante où s'ouvraient tous les cœurs ou tous les vins coulés. Ça a l'air sympathique comme ça, mais si on regarde bien, finalement, ce festin qui pourrait faire allusion, par exemple, aux noces de Cana, avec le Christ hein, qui change l'eau en vin, ça a l'air quand même d'être plutôt une sorte de festin orgiaque, hein, comme on en a parfois, par exemple, dans La peau de chagrin de Balzac. D'ailleurs, on voit son attitude. Un soir, il assoit la beauté sur ses genoux.
Alors, il y a quelque chose d'érotique directement aussi.
Oui, érotique. Hein. Érotique, c'est un festin allégorique. Mais lui, c'est un poète. Alors, je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir dans ce festin, mais il y a peut-être la vérité, il y a peut-être le bien. Là, étant donné qu'il est poète, il prend la beauté sur ses genoux. Mais un soir, bon, tous les vins ont coulé, il est sans doute ivre. Cette beauté, au lieu de se mettre à ses genoux, comme on doit en principe vis-à-vis d'une dame, il assit sur ses genoux. Et il la trouve amère et il la jurie. C'est-à-dire, il va la goûter. Et immédiatement, ce goût pour la beauté va se transformer en dégoût. Et il va faire le choix de quitter ce paradis. Et il va être donc, en quelque sorte, comme dit Sartre, condamné à être libre.
Il fait le choix de quitter le paradis.
Voilà.
Ou est-ce qu'il n'est pas expulsé du paradis?
Ben, rien ne l'indique ici. Et je l'ai trouvé, je me suis armé contre la justice. Rien ne dit que les autres convives l'ont chassé. Voilà. C'est une sorte d'anti-Adam qui aurait goûté un petit peu au paradis, aurait vu un mensonge. D'ailleurs, il n'est même pas sûr que c'est bien existé, si je me souviens. Et il décide qu'il préfère la vérité au mensonge.
Donc il préfère le monde tel qu'il est aussi. Il préfère se frotter à sa difficulté et être plus dans le réel que, je ne sais pas, dans la fiction par exemple, même si lui-même est un poète.
À condition que le monde soit accessible. Mais le monde, en fait, n'existe pas dans cette représentation. Si on quitte le paradis, on se retrouve du côté de Satan. Donc, Rimbaud dit à la fin d'Adieu qu'il va être rendu à sa condition paysanne.
Donc, Adieu, c'est la dernière
section d'une saison d'enfer, qu'il va être rendu à sa section paysanne, c'est-à-dire à la réalité rugueuse à étreindre. Mais, en fait, il faut la conquérir, cette réalité. Pour l'instant, étant donné qu'il est, dit-il, ailleurs esclave de son baptême, il est en proie à des représentations, il est en train d'osciller entre des représentations paradisiaques et des représentations infernales. En 1871, au moment où il avait 17 ans, et dans l'arrogance de son adolescence géniale, il pensait pouvoir faire tabula rasa de toutes les représentations, en disant « Allez, le christianisme, il est derrière moi ». Et il se rend compte en 1873 qu'il n'a pas réussi, avec son projet de voyant, à combattre le christianisme. Il a réussi à le dénoncer, mais il n'a pas réussi à l'expulser de lui-même. Donc pour ce combat spirituel fait qu'il passe continuellement de représentation du bonheur aux représentations du malheur, de Dieu à Satan, et il n'arrive pas à accéder à ce qui devrait être pourtant évident, c'est-à-dire le monde,
la réalité. Il est esclave de son baptême.
Esclave de son baptême. Il dit aussi « Je reconnais là ma sale éducation d'enfance ». Autrement dit, il a engagé une énergie colossale à combattre le christianisme. Mais malgré toute l'énergie dépensée, les représentations psychiques, culturelles, mais en tout cas intérieures à son être, restent en place.
Et c'est ça l'histoire de cette espèce de roman, alors, que pourrait être aussi Une saison en enfer ?
C'en est un des enjeux. Il écrit « Le combat spirituel » est aussi brutal que la bataille d'hommes. Donc, il va y avoir une physique du combat contre les représentations chrétiennes, contre les représentations catholiques.
Et qui aboutit où, alors, ce combat?
Il aboutit souvent à la défaite du sujet, hein, parce qu'il le dit à un moment, on ne part pas. Je quitte l'Europe, et tout de suite après, il dit, on ne part pas. Voilà. Ce n'est pas parce que vous quittez l'Europe, si vous emportez votre religion aliénante et votre Oedipe sur les mers du Sud, vous n'êtes toujours pas libre. Mmh. Il s'agit plutôt d'expulser de lui ce qu'il appelle l'enfer. Et donc, parfois, souvent, ça ne fonctionne pas. Et après, il va essayer de trouver des solutions. Il y a deux solutions. Soit on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas mis assez d'énergie de révolte et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas parce que, par exemple, au début de Nuit de l'Enfer, qui est une des sections d'une saison d'enfer, il y a un choc des incompatibilités qui se fait entre ce qu'il appelle son paganisme et le christianisme et il connaît une véritable crise d'hystérie, une véritable crise d'angoisse. Mmh. Et la deuxième solution, ça sera, comme dans l'impossible, d'essayer de déconstruire peu à peu chaque représentation chrétienne. Le christianisme est l'horizon omniprésent d'une saison d'enfer, ce qui faisait dire à André Breton, Rimbaud est coupable car il n'a pas rendu tout à fait impossible certaines interprétations déshonorantes de sa pensée, genre Claudel.
Alors rentrons un peu dans le texte.
L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres. Tout mon fardeau est déposé. Appression sans vertige, l'étendue de mon innocence. Je ne serai plus capable de demander le réconfort d'une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit Dieu. Je veux la liberté dans le salut. Comment la poursuivre? Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité. Je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens. Quant au bonheur établi, domestique ou non, non. Je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurie par le travail, vieille vérité. Moi, ma vie n'est pas assez pesante. Elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du monde. Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d'aimer la mort. Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, comme les anciens saints, les saints, des forts, les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus. Farce continuelle, mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce amenée par tous.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cette lecture de Mauvais sang par Guy Chapelier. Donc une fois que on est tombé du paradis, qu'on a quitté ce paradis, on arrive dans ce début de nouvelle section qui s'appelle donc Mauvais sang. Continuons à dérouler un petit peu le trajet de ce recueil. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Yann Frémy? Qu'est-ce que Rimbaud nous dit?
Donc, dans Une saison d'enfer, Rimbaud est prisonnier de son passé, donc il va reprendre les choses au début. Il reprend les choses au début, et là, il s'inscrit dans une perspective historique. Il va se poser la question de l'histoire. Donc, il va remonter jusqu'à ses ancêtres gaulois. Dans les monarchies, dans l'Empire, on expliquait que les premiers habitants, si on peut dire, en quelque sorte, c'était les Francs. Et l'aristocratie se reconnaît évidemment dans la noblesse franque. Les manuels scolaires de la Troisième République nous ont donné la figure du Gaulois. Donc il reprend un petit peu, sous forme parodique, cette idée « J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc ». Donc on s'attend en quelque sorte ici, dès qu'on voit ici, à une sorte de récitation scolaire. Mais en fait, Rimbaud va réussir à faire dévier l'histoire. Ce qu'il veut expliquer, c'est ce qu'il veut mettre en place, c'est une sorte de contre-histoire. Si vous regardez bien, Mauvais sang, effectivement, il va donner sa chance à des figures oubliées de l'histoire. Par exemple, plutôt que de s'identifier aux grands personnages historiques, ce qu'il pouvait faire, bon, il y a Jeanne d'Arc qui apparaît un moment, mais c'est pas généralisé, il va s'intéresser aux lépreux, aux crucifiés, à la sorcière, à des figures, ensauvagées de l'histoire que l'histoire officielle n'a pas retenues. Et il va constituer, face aux lignes intégrales de pouvoir qui veulent une récitation de l'histoire à travers de grands noms, toute une série de noms oubliés de l'histoire ou d'identités oubliées de l'histoire qu'il va le mettre en réseau. Et finalement, ce peuple des oubliés, c'est son peuple. C'est son peuple et qui n'est pas officiellement reconnu.
Donc il se choisit vraiment un camp par rapport à tout ce qu'il a appris. On imagine qu'il revisite, puisque c'est un jeune garçon extrêmement cultivé, tout ce qu'il a appris à la fois dans ses cours d'histoire et puis tout ce qu'il a lu. Et il se positionne finalement par rapport à cette science qu'on lui a inculquée.
Bien sûr, il a conscience que l'historiographie est orientée par des dispositifs de pouvoir, des savoirs qui nous donnent une certaine vision de l'histoire. Il va proposer une contre-histoire, et cette contre-histoire, il va essayer de la repenser à base d'énergie. Par exemple, je vous cite juste un extrait. « Ah encore, je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants ». Ici, par exemple, le nom de la sorcière n'est même pas cité. C'est un nom comme oublié parce que c'est un nom qui est à la périphérie. C'était un nom que, enfin, la sorcière était dans les forêts. Elle était exclue. Mais ce qui l'intéresse, effectivement, c'est cette danse, c'est cette rouge clairière, donc une sorte d'énergie pure. Et lui va véritablement être intéressé par ces figures oubliées de l'histoire, mais parce qu'elles ont été oubliées, ont encore plus d'éclat, ont encore plus d'énergie. Et donc, c'est une histoire alternative qu'il va proposer. Bien sûr, on reconnaît des figure de l'histoire de France, parce qu'on a tous entendu parler des lépreux, des sorcières, mais là, il va leur donner une dignité, un éclat que l'historiographie contemporaine leur refusait justement.
Alors c'est assez beau ce mot d'énergie que vous utilisez assez souvent dans vos textes, Yann Frémy. Est-ce qu'on peut s'arrêter un tout petit peu sur ce concept pour chercher un peu davantage justement dans Une saison en enfer, essayer de trouver aussi d'où il vient, justement cette énergie, où est-ce qu'il va la puiser? Est-ce que par exemple on peut considérer qu'il la puise dans le 18e siècle?
Tout à fait. Il dit « Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles », ça c'est sans doute une allusion à Rousseau, mais Delahaye, hein, son meilleur ami, hein, dont on remet trop souvent à mon avis en cause le témoignage, a indiqué que Rimbaud est un fils du 18e. Il a lu Jean-Jacques Rousseau, il a lu aussi Helvétius et d'Holbach.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui paraît assez évident dans le rapport à la nature chez Rousseau et le rapport à la nature chez Rimbaud.
Oui, mais chez Rimbaud, le rapport à la nature est ambigu. Par exemple, si vous prenez Le Dormeur du Val, il se noie littéralement dans la nature. Et souvent, il dit, par exemple, dans un extrait, Nuit de l'Enfer, « Satan, tu veux me dissoudre avec tes charmes. Je réclame un coup de fourche, une goutte de feu. » En fait, Rousseau trouvait son paradis dans une annulation des différences. Il était un sujet en énergie minimale, si on peut dire, dans une nature accueillante. Rimbaud, lui, tient trop à son existence, littéralement. Il préfère un coup de fourche, une goutte de feu, c'est-à-dire, il est dans cet autre 18e siècle où on disait notamment que l'homme préfère souffrir que de ne point sentir. Ce que Rimbaud ne veut pas, contrairement à Rousseau, ce ne sont pas des sensations d'apaisement, mais des sensations d'existence, des sensations de vie. Et il va chercher du côté d'Helvétius, justement, qui est le théoricien, justement, de la sensation maximale.
Alors, si je comprends bien, la nature du côté de Rimbaud, il la préfère dure, il la préfère violente. Ça n'est pas justement le paradis de Rousseau. Donc, dans les deux cas, comme dans l'introduction aussi d'Une saison en enfer, Rimbaud s'en va, quitte le paradis.
Oui, il quitte le paradis.
Ou alors il cherche à ce que ce paradis, finalement, le pique lui fasse mal.
Mais en fait, après, il le regrette parce qu'il dit « J'ai songé à retrouver la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. » Ce qu'explique encore Delahaye, c'est que d'une certaine manière, il a été corrompu par Helvétius et aussi par d'Holbach, qui est un matérialiste tel qu'on n'en voit plus, qui explique, par exemple, c'est le Christ qui a sans doute s'est mis d'accord avec le maître d'hôtel pour amener des bouteilles de vin, enfin des amphores de vin, voilà, qui a un trucage. Rimbaud ne va pas jusque-là, hein, précisément parce qu'il est prisonnier de ce christianisme, mais il explique qu'il a été corrompu par Helvétius et par d'Holbach, mais il a trouvé la modération grâce à Rousseau. Donc en fait, il y a ces deux tendances qui s'opposent dans Une saison d'enfer, et si on parle en termes d'énergie, d'un côté une sorte d'énergie minimale, et de l'autre côté une sorte d'énergie maximale. Rimbaud voit bien que c'est pas parce qu'on met des grandes quantités d'énergie, des grandes quantités de révolte en jeu, qu'on arrive forcément à se débarrasser de ces démons intérieurs. Voilà. Et donc, il va se dire que finalement, cette dépense a brisé sa résistance nerveuse, l'a épuisée, et que tout est en place, encore, comme s'il ne s'était pas révolté.
Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche, ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte, assez. Des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum, faux, musique puérile, et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice, j'ai un jugement sain et arrêté, je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur. J'ai peur. J'ai soif.
si soif. Ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait 12. Le diable est au clocher à cette heure. Marie, Sainte Vierge, horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien? Venez, j'ai un oreiller sur la bouche, elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu, plus de fois en l'histoire, l'oubli des principes, je m'en tairai. Poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche, soyons avares comme la mer. Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure, je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse, l'enfer est certainement en bas, et le ciel en haut, extase. Cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Je vais éveiller tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie.
Alors après Mauvais Sang, on avance d'une section. On se retrouve dans la nuit de l'enfer. On est au cœur des cercles de l'enfer, pourrait-on dire, Yann Frémy, au cœur finalement d'une trajectoire dans le plus profond, le plus noir de cette trajectoire que fait Une saison en enfer.
Oui, tout à fait. C'est une sorte d'acmé inversé. On est au plus profond. Et Rimbaud, avec une grande intelligence, arrive à bien nous faire comprendre les choses. Par exemple, dans l'extrait qui a été cité, il dit « J'ai soif, si soif. » Ah, et qu'est-ce qu'il regrette? Ben, il regrette l'enfance. Il regrette l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres. Donc, des réalités simples qui pourraient apporter un bonheur quotidien. Et tout de suite après, il dit « Le clair de lune quand le clocher sonnait 12. » Et après, tout de suite, « Le diable est au clocher. » Donc, immédiatement, lorsqu'il essaye de saisir un peu de réalité, c'est-à-dire un peu de cette terre où il pourrait vivre heureux en échangeant l'amour, l'amitié, il se représente en proie à des représentations infernales qui ne le quittent pas.
Est-ce que Dante est présent ?
Alors, il y a des allusions à Dante, mais en fait, il vide quand même beaucoup l'enfer de son modèle culturel. On a trouvé des éléments qui faisaient penser à Adam, des éléments qui faisaient penser à la Nekouia d'Ulysse, sa descente aux enfers, à des catabases aussi, c'est-à-dire la catabase, c'est plutôt dans l'Énéide. Mais on s'aperçoit que ces modèles culturels, en fait, ne sont pas très très présents. Et même sa définition, l'enfer, d'enfer, est étrange. Par exemple, à la fin, dans un petit peu plus loin, il dit... C'était bien l'enfer, l'ancien, celui dont le Fils de l'homme ouvrit les portes. Or, si on regarde, le Fils de l'homme, c'est le Christ. Et quelles sont les portes qui nous ouvrent en enfer? Ben, ce sont les portes des limbes. Hein, c'est-à-dire que pendant sa mort physique, le Christ, dit-on, est descendu aux enfers et a libéré l'âme des justes et des patriarches qui étaient morts avant son avènement. Donc, quel est cet enfer? Il dit que... La question, c'est de savoir s'il est mort. Non, visiblement, parce que Satan lui dit dans le prologue « Gagne la mort avec tous tes péchés capitaux ». Donc, l'enfer, en fait, c'est encore la vie. Hein, c'est ce qu'il dit à un moment.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment que Rimbaud s'identifie d'une manière ou d'une autre à la figure du Christ? Ou est-ce que c'est aller déjà beaucoup trop loin que d'imaginer cela?
Rimbaud écrit « Je ne suis pas embarqué avec Jésus-Christ pour beau-père ». C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause son matérialisme et son athéisme à ce moment-là. Il pense au christianisme comme problème culturel et comme problème religieux. Mais il va distinguer quand même entre le christianisme et le Christ. Et effectivement, entre le Christ et le voyant, Le voyant qui appelle sur lui d'énormes souffrances pour ouvrir aussi d'une certaine manière les portes du paradis à travers la plénitude du grand songe, il y a nécessairement une possible identification. Il a d'ailleurs écrit trois proses qui s'appellent les proses évangéliques, enfin c'est pas le titre, il n'y a pas de titre, mais toujours est-il qu'il a fait des paraphrases au niveau de l'évangile, et c'est très très étonnant.
Elles sont écrites justement au verso d'un certain nombre...
Des brouillons d'une saison d'enfer, notamment. Tout à fait.
Ça, c'est quand même très signifiant, alors.
C'est quand même très, très significatif, mais ce n'est pas du tout, comme le pense Isabelle, un retour à la foi, c'est-à-dire on va s'approcher du plus près possible du sujet à traiter. Rimbaud, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur son sensationnisme, sur sa force, mais c'est quelqu'un qui est effectivement très intelligent, très lucide, qui travaille sans doute non pas de manière brutale, mais avec de la documentation qui fait un véritable travail d'écrivain. Et là, il se montre très très méthodique et il se dit que si effectivement il veut approcher l'évangile, il faut même d'une certaine manière l'écrire et le réécrire.
Et alors, donc il y en a trois de ces proses dites évangéliques et celle-ci qu'on vient d'entendre, La nuit de l'enfer, ce serait presque la quatrième.
Oui, on trouve la quatrième, effectivement, parce qu'il y a l'épisode de Jésus sur, au lac de Tibériade. Il y a un beau passage de ce côté-là. Par exemple, c'est Jésus marche sur les ronces purpurines sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et des tresses brunes, au flanc d'une vague d'émeraude. Mmh. Il y a une poésie qui est quasiment biblique ici. Mais on voit aussi cette intensification de l'image qui est ici. On a les ronces purpurines, les eaux irritées, la lanterne, blanc, des tresses brunes. Ça devient véritablement un spectacle énergétique, véritablement.
Il y a un ton qui est le ton un peu de la parabole depuis le début. Est-ce que on peut aller chercher aussi dans ce sens-là, de ce côté-là, Yann Frémy?
Il faut bien voir que Rimbaud baigne là-dedans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, toute son enfance, a été à la messe. Il n'avait pas vraiment le choix. Il a été au séminaire. On imagine mal aujourd'hui que, et en plus, il habitait à la campagne. L'environnement religieux qui était le sien. Sur la question de la parabole, oui. Et donc, déjà, dans Délire 1, juste après, on est justement dans la réutilisation de la parabole. La parabole, donc, c'est une sorte d'apologue, d'apologue, c'est-à-dire un récit, en principe un peu simplifié, qui est destiné à donner une morale à la fin. Mais on voit que la morale à la fin, c'est juste drôle de ménage. Alors, comme morale, c'est quand même assez énigmatique.
À cette vie de mon enfance, la grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressé que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays, ni amis, quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains, puisque je m'évade. Je m'évade. Je m'explique. Hier encore, je soupirais. Ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas? Moi, j'ai tant de temps déjà dans leur troupe. Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours. Nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue, mais nous sommes polis. Nos relations avec le monde sont très convenables. Est-ce étonnant? Le monde, les marchands, les naïfs, nous ne sommes pas déshonorés. Mais les élus, comment nous recevraient-ils? Or, il y a des gens hargneux et joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus, ce ne sont pas des bénisseurs. M'étant retrouvé dessous de raison, ça passe vite, je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident, les marais occidentaux. Non que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré. Bon, voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes dessous de raison sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais.
Extrait de L'Impossible, nouveau fragment d'une saison en enfer, lu par Jacques Gamblin. Alors là, on a fait un saut, on est déjà à la section 6. On a un petit peu avancé. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue avec cette section, Yann Frémy?
Dans L'Impossible, Rimbaud change d'une certaine manière de méthode. Face à la question chrétienne, il a bien vu que ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'énergie contre cette tendance, qu'on réussit à triompher. Donc il va commencer à utiliser une autre méthode, une méthode qu'on pourrait appeler déconstructionniste. Il va essayer de déconstruire le christianisme à travers l'histoire de l'esprit. C'est beaucoup plus méthodique, c'est beaucoup moins intensif, mais... Finalement, à la fin, il y a le retour au même. Par exemple, pensant avoir réussi à déconstruire l'ensemble, il se retrouve face à la vérité. Et face à la vérité, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des anges pleurant. Donc à chaque fois, ce sont les mêmes images qui reviennent. On a les anges pleurant, on a la pleine sagesse, et il a cette phrase extraordinaire après, c'est « par l'esprit, on va à Dieu ». Précédemment, il a dit que l'esprit ne le laisse pas conclure comme il voulait. Donc, il veut conclure d'une certaine manière, mais il a une sorte de daimon, un esprit qui est en lui, qui est cet esprit culturellement déterminé, qui fait qu'il n'arrive pas à conclure comme il voulait. Par exemple, si on reprend cette phrase finale, cette clausule, « par l'esprit, on va à Dieu ». Par l'esprit, on devrait pouvoir faire beaucoup de choses. Par l'esprit, on devrait pouvoir créer, on devrait pouvoir être libre, on devrait pouvoir penser par soi-même, mais non. L'esprit, par l'esprit, on va à Dieu. On dirait qu'il y a un seul chemin. Et il dit à la fin, déchirante infortune. Déchirante infortune, parce que justement, l'esprit qui devrait être libre est immédiatement ramené toujours du côté de Dieu.
Il n'y a jamais de dépassement chez Rimbaud. On est finalement toujours rattaché à des émotions négatives, à la colère notamment, et puis à l'échec.
Disons que là, il a clairement conscience de ce qu'on pourrait appeler la clôture de la métaphysique occidentale. Il s'aperçoit bien que sa déconstruction n'arrive pas à déconstruire la métaphysique occidentale. Mais tout de même, il y a des petits progrès parce que, j'ai envie de dire, l'adversaire prend des coups. Et soit sous la forme de coups de bélier, très forts liés à son énergie et à sa force de révolte, soit par des méthodes de déconstruction extrêmement patientes. Donc là, dans L'Impossible, on est déjà sur la seconde crête du livre. Oui. Évidemment, ça semble toujours la même conclusion, c'est-à-dire on ne perd pas, mais progressivement... Rimbaud s'achemine vers la sortie de l'enfer.
Alors il faut peut-être faire un petit pas de côté pour parler de la question du pouvoir. Vous convoquez à un moment donné Michel Foucault en disant que bien avant Foucault, il y a, vous avez d'ailleurs tout à l'heure employé le mot de déconstruction, une analyse du pouvoir chez Rimbaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage dans précisément hein, Une saison en enfer, Yann Frémy?
C'est-à-dire, effectivement, ma référence à Michel Foucault, c'était par rapport au fait que Michel Foucault explique qu'il n'y a pas de pensée sauvage, qu'il n'y a rien avant les dispositifs de pouvoir et de savoir. Et Rimbaud, qui en 1871, c'est-à-dire à l'époque de l'aide du voyant, avait cru faire table rase de tout, s'aperçoit que on ne peut pas véritablement décréter que les représentations qui nous ont façonnés dans notre enfance ou qui ont façonné notre culture sont expulsables comme ça. Donc, il essaye de revenir à une sorte d'énergie pure, mais cette énergie pure n'existe pas. Si on peut citer un autre philosophe, on pourrait citer, par exemple, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze explique qu'il faut fendre les codes, par exemple, fendre les codes de l'histoire. Et il espère, c'est par exemple dans Différences et répétitions, il dit « il existe un espace intensif sans autre qualification et dans cet espace une énergie pure ». Retrouver une sorte d'énergie originelle. Mais là, on s'aperçoit que cette désaliénation est impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où ça ne soit pas brouillé. Tout est toujours mélangé à tout véritablement. Il y a un passage extraordinaire dans Mauvais sang. Mauvais sang, dans la quatrième section, au départ, c'est la naissance du sujet à son corps. Et dans la naissance au sujet à son corps, ce qu'on pourrait dire quelque chose de biologiquement pur, inentaché, eh bien, il y a encore une fois des représentations chrétiennes qui s'y attachent. Donc à chaque fois, il est rattrapé par ça. Donc effectivement, il se rend compte qu'il n'y a rien en dehors de dispositifs de savoir, des dispositifs du pouvoir. C'est pour ça qu'à un moment, il va dire « il faut jeter la pourriture à l'écart ». C'est-à-dire, étant donné que je n'arrive pas à me défaire de ça, je vais peut-être tout simplement mener une autre vie.
Est-ce que c'est consensuel ce que vous dites là ? Est-ce que de le rapporter comme ça, de manière aussi claire au christianisme, parmi tous les exégètes de Rimbaud, ça fait consensus ou pas ? Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu la lecture d'Isabelle Rimbaud, sa sœur, d'en faire un mystique, enfin de voir le christianisme à travers le voyant Rimbaud. Qu'en est-il en réalité ?
En fait, oui, mais c'est tout à fait à l'antithèse du point de vue d'Isabelle, parce que Isabelle explique que la voyance, finalement, ça consiste à voir le ciel pur des idées et des anges pleurant. Rimbaud, lui, s'intéresse, comment dire, au christianisme comme fait religieux, comme fait intérieur, et non pas comme adhésion. Il n'y a pas de foi de Rimbaud à ce niveau-là. Donc, il reconnaît l'omniprésence du christianisme, notamment, comme problème culturel, comme problème intérieur, comme problème psychique, psychologique, historique. Mais il n'y a pas d'adhésion chez Rimbaud à une croyance, hein, plutôt un constat.
Donc là-dessus, tout le monde est d'accord, en fait.
Un constat, une méthode, oui, tout le monde est d'accord. Peut-être pas sur la manière dont il s'en sort, mais en tout cas sur l'omniprésence du christianisme dans une saison d'enfer, oui.
Allez, il faut passer à la dernière section de cette saison en enfer, c'est l'adieu.
À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvait dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs.
Inversion dans les bobineaux. On va quand même parler de l'adieu, Yann Frémy. Peut-être que vous voulez nous faire une petite citation d'ailleurs de ce qui vous paraît le plus important à lire pour bien comprendre cette dernière section d'une saison en enfer.
Oui, plusieurs citations. Par exemple, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher la réalité rugueuse à étreindre paysan. Mais ce retour à la réalité paysan, c'est une retour à la terre aussi, c'est-à-dire que finalement, au-delà des représentations, il a quand même réussi, certes à chuter, mais aussi à retrouver le sens du réel.
Il faut être absolument. C'est finalement assez joyeux alors comme fin, vous trouvez ?
Ça sera ambigu, effectivement. Là, si on avait terminé par paysan, on aurait pu dire, voilà, c'est un renoncement à la littérature. Mais c'est pas la phrase finale. Après, on a le célèbre « Il faut être absolument moderne »,
oui,
qui a pu être interprété comme, évidemment, une injonction à la modernité, au modernisme, à l'esthétique, mais qui pourrait être aussi, finalement, une phrase ironique. Qui dit qu'il faut être absolument moderne, ce que rappelle Rimbaud, ce qui a pris la suite du christianisme dans la société bourgeoise, c'est-à-dire la science. Donc, en fait, Rimbaud explique qu'une métaphysique en suit une autre. Il prend bien acte que de toute façon, dans la société qui va être la sienne, la société serait déchristianisée, mais qu'il y a une nouvelle métaphysique qui va prendre la place, et cette métaphysique, c'est la métaphysique de la science soutenue par la bourgeoisie. Donc on peut l'interpréter effectivement de deux façons.
Et quelle est votre interprétation à vous ?
Je suis toujours depuis une quinzaine d'années sur cette formule et je la reprends sans cesse.
Alors aujourd'hui, parce que si ça
alors,
change.
Aujourd'hui, je pense à ce que Rimbaud avait déclaré. À sa mère qui lui demandait ce que voulait dire une saison d'enfer, il a dit ça veut dire ce que ça veut dire littéralement et dans tous les sens. Donc, littéralement, ça permet quand même de sortir de l'enfer, parce qu'il y a une seule voie. Généralement, il y a un seul chemin hein, pour sortir de l'enfer. Dans tous les sens, ben, on y retourne. Mais quand on est dans tous les sens, on essaye de revenir vers le littéralement qui nous ramène dans tous les sens. Donc, il se pourrait que ça soit une formule un petit peu tournoyante, comme ça. Et ensuite, bien sûr, à l'aurore, armée d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Qu'est-ce que c'est que ces splendides villes ? On a dit, c'est la Jérusalem céleste. Bon, les splendides villes, c'est les villes éclairées. Donc, il y a quand même un nous, puis un je, qui rentre armé, même d'une ardente patience, on pourrait dire que c'est un nous armé, dans les splendides villes à la fin. Donc on pourrait avoir quand même l'esquisse ici d'un mouvement révolutionnaire. Et puis le jeu a laissé place à un nous.
Ça nous fait une très bonne transition vers l'émission de demain, mais poursuivez Yann Frémy.
Et on aurait pu dire, voilà une fin joyeuse. Voilà un dénouement, peut-être à interpréter, mais nous entrerons aux splendides villes. Mais tout de suite à la fin, ça y reprend. Que parlais-je demain à midi ? Que parlais-je demain à midi ? Finalement, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous, on revient encore au jeu.
Et donc, que faut-il en conclure ?
Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un concept qui revient, c'est celui de vérité. On avait parlé du concept d'énergie, voilà, mais Rimbaud va préférer à la question de la dépense, de l'énergie, finalement la vérité. Et la vérité peut être triste, comme elle peut être joyeuse. La formule, là, ici, reste énigmatique.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Yann Frémy, on avait voulu la consacrer à une saison en enfer, plutôt qu'aux illuminations, dont on a un petit peu parlé dans l'émission d'hier. En général, c'est plutôt les illuminations que les lecteurs préfèrent. Il y a quelque chose, en effet, de plus sombre dans une saison en enfer et de plus lumineux, coloré, comme son nom l'indique, dans les illuminations. Vous aussi, est-ce que vous avez une préférence pour une saison en enfer ?
Après une saison en enfer, on passe aux illuminations, c'est-à-dire théoriquement au paradis.
Donc c'est l'inverse, les deux textes sont liés ?
Les deux textes sont liés, c'est-à-dire je pense que les illuminations sont en germe dans une saison d'enfer. On voit clairement des mouvements qui sont préparés, qui sont là. D'ailleurs, Rimbaud ne cite que des poèmes en vers, il ne cite pas de poèmes en prose. Donc on peut penser que les illuminations ont été composées massivement, au moins, après une saison d'enfer. Mais on aurait quand même beau jeu de montrer qu'une saison d'enfer est une œuvre créative, joyeuse, d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des mouvements sombres, mais il y a aussi des réussites colorées, exceptionnel d'une certaine manière,
par exemple,
comme ce Christ sur les ronces purpurines qui marche sur les eaux irritées, ou cette sorcière qui danse dans les clairières avec des vieilles et des enfants dans une rouge clairière. Il y a des mouvements d'illumination dans une saison en enfer. Et on aurait beau jeu de montrer aussi que dans les illuminations, il y a aussi beaucoup de mouvements déceptifs d'une certaine manière. Donc on n'est pas face à des œuvres qui s'opposent, mais des œuvres qui sont complémentaires.
Donc pour vous, il y a un vrai continuum. Qu'est-ce qui se passe finalement dans le style de Rimbaud quand on passe de l'un à l'autre.
Une saison d'enfer, c'est de la prose et les illuminations sont des poèmes en prose. Donc, ils changent de forme d'écriture. Et on sait aussi que maintenant, vu qu'une lettre de Rimbaud a été récemment retrouvée, une lettre écrite en 1874, qu'il envisageait un recueil qui s'appelait L'Histoire magnifique, hein, dont il a sans doute écrit quelques extraits, et qui là était une œuvre un petit peu plus alimentaire. Mais toujours est-il qu'on n'est pas dans la logique de l'œuvre ultime ou de l'œuvre finale. Je pense que Une saison en enfer a quand même une force, c'est que c'est un recueil qui a été voulu du début à la fin par Rimbaud. Les illuminations, Fond, c'est un recueil organisé de poèmes en prose, mais des tas de questions se posent par rapport à son organisation. Donc, si on veut saisir aussi le destin de Rimbaud, Une saison d'enfer est une bonne entrée. Une bonne entrée de ce côté-là.
Parce que c'est pas comme si les illuminations, c'était un point final à l'œuvre de Rimbaud. On peut pas dire ça.
On sait qu'à un moment, il arrête d'écrire.
Je veux dire, c'est pas pensé comme ça, en tout cas. Ça ne peut
c'est pas pensé comme l'œuvre finale. Delahaye avait une explication très simple. Quand on lui disait pourquoi Rimbaud a arrêté d'écrire, il a dit sa verve s'est épuisée, il n'avait plus rien à dire.
Merci beaucoup, Yann Frémy. Je renvoie à nos auditeurs sur votre essai intitulé Te voilà, c'est ta force, aux éditions Classique Garnier, et puis aussi Le Quarto, un concert d'enfer, vie et poésie, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, dont vous vous êtes occupé. Vous étiez trois à vous occuper de ce très beau quarto. Je ne cite pas tous les noms, mais ils sont sur notre site internet. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Elle est proposée, cette chronique, aujourd'hui par vous, Fabien Simode, rédacteur en chef de la revue d'Art L'Œil. Bonjour Fabien.
Bonjour Mathieu.
Et en couverture de L'Œil, vous posez la question ce mois-ci de l'art contemporain comme une vaste plaisanterie, c'est de la provocation.
La question est légitime après l'épisode de la badane de Maurizio Cattelan. Vous vous en souvenez, en décembre, l'artiste italien a créé un buzz en scotchant une véritable banane sur le mur de la galerie Perrotin à la foire Art Basel Miami. Cette foire étant l'un des rendez-vous les plus courus du marché de l'art contemporain, cette nouvelle facétie de l'artiste a fait en quelques heures le tour de la planète, suscitant commentaires amusés ou indignation. Pourtant, assure l'artiste et son galeriste, il s'agissait bien d'art. Eux parlent même d'une sculpture avec un titre, comédien, et un prix, 120 000 $ la banane. Vous allez me dire, Mathieu, que rapporté au kilo, cela fait cher le fruit. Certes, sauf que rapporté à la cote de l'artiste, c'est cadeau. Il faut savoir que l'une des sculptures les plus connues de Cattelan, représentant Hitler enfant agenouillé en prière, a été adjugée 15 000 000 $ en 2016, soit 125 fois la banane.
Alors c'est un joli coup pour l'artiste qui s'est assuré là une campagne marketing à moindre frais au fond.
Ah oui, que ce soit dans les journaux, à la télévision et sur les réseaux sociaux, le monde entier a commenté cette dernière provocation de Cattelan qui a été comparée à un Buster Keaton de l'art contemporain. C'est précisément ce qui nous a donné l'envie d'enquêter sur l'utilisation de l'humour dans l'art et de poser cette question en couverture de L'Œil. L'art contemporain, une vaste plaisanterie ?
Et cette enquête, elle montre aussi que Cattelan n'a pas le monopole de l'humour.
Ni le monopole, ni même la paternité. Souvenons-nous du scandale provoqué en 1910 par la présentation au Salon des Indépendants d'un paysage romantique d'un certain Brunelli qui s'est avéré être en réalité un âne. Un scandale survenu 7 ans avant un autre canular, le fameux urinoir dit Fontaine de Marcel Duchamp. Car Maurizio Cattelan s'inscrit dans une histoire qui commence à la fin du 19e siècle avec le cercle des poètes zutistes auquel a appartenu au passage Rimbaud et qui se poursuit avec Dada, puis, dans les années 70, avec la Société pour remettre l'humour dans l'art fondée par le sculpteur Bruce MacLean. Si cette esthétique de l'humour ne s'est jamais interrompue en Europe, nourrie par Hans-Peter Fellmann ou Eric Dittmann, elle semble prendre le pas aujourd'hui sur l'art. Normal, nous dit Frédéric Becbédé, qui épingle dans son dernier roman, je cite, « la drôlerie devenue obligatoire ». Le monde entier se gondole en même temps qu'il se réchauffe, écrit Becbédé. Tout doit être absolument désopilant. Les titres des journaux font des calembours. Chaque discours politique contient des petites phrases marrantes pour passer aux 20h. Et, avant d'ajouter ce qui nous intéresse, et depuis Andy Warhol, tout l'art contemporain n'est qu'une blague à prendre au second degré.
Alors un second degré qui permet tout de même parfois de faire entendre des critiques.
Lorsque Wim Delvoye met au point des machines digestives créant de vrais faux excréments pour le marché de l'art, c'est une manière en effet pour l'artiste de critiquer certaines dérives artistiques. Mais, remarque Anne-Cécile Sanchez dans le magazine L'Œil, depuis les années 2000, les artistes injectant une dose d'humour dans leur œuvre sont pléthores. Des billets d'humeur dessinés d'Alain Séchas au vidéo-gag de Mika Rothenberg dans lequel un homme éternue littéralement un steak. L'humour est devenu une composante récurrente de l'art. Alors je pose la question, à trop multiplier le canular, ne risque-t-on pas un péril drôle ? Car l'humour dans l'art, c'est comme l'humour tout court, un travail d'équilibriste. Qu'est-ce qui a rendu la prestation de Florence Foresti au César irrésistible pour certains et insupportable pour d'autres ? L'humour relève d'une alchimie entre forme d'habileté et d'efficacité, remarque le plasticien Mathieu Mercier dans l'œil. Alors Mathieu, l'art contemporain, une vaste plaisanterie? Selon moi, la question mérite d'être prise au sérieux.
Et en tout cas, c'est la couverture du magazine L'œil de Mars. Merci beaucoup Fabien Simode, à très bientôt. Compagnie des œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Sylvain Latu. Demain, suite de notre série Rimbaud, nous irons traquer la politique dans ses poèmes en compagnie de Frédéric Thomas, auteur de Rimbaud Révolution aux éditions de l'Échappée.